Voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une arnaque à près de 300 millions d'euros. Le premier procès des fraudes aux émissions de carbone débute aujourd'hui. Les prévenus sont accusés d'avoir abusé de ces droits à polluer nés lors du protocole de Kyoto.
Un bilan de la refondation de l'école, près de 2000 participants, 3 ministres de l'éducation nationale, le président Hollande, le premier ministre. La mobilisation est générale pour dresser un point d'étape de ce qui était la priorité du quinquennat.
La loi travail, elle, arrive demain à l'Assemblée nationale. 5000 amendements ont été déposés. Les députés comptent réécrire largement la réforme de Myriam El Khomri.
À l'étranger, la crise au Venezuela, le pouvoir change de fuseau horaire pour faire des économies d'électricité et augmente le salaire minimum pour calmer la colère de la population.
Et puis nous irons en Irak où les partisans du dirigeant chiite Moqtada al-Sadr ont occupé la zone verte hier à Bagdad pour faire pression sur la formation du gouvernement. C'est peut-être le casse du siècle, en tout cas une arnaque qui restera un cas d'école. La fraude sur les quotas d'émissions de CO2, une escroquerie à la TVA sur les droits carbone. En tout, la manipulation aurait fait perdre près de 2 milliards d'euros à la France et près de 5 milliards à l'Europe. Plusieurs affaires sont en cours d'instruction. C'est l'une d'elles qui est jugée à partir d'aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris. Explication avec Élodie Fauré.
Pour bien comprendre cette fraude monumentale, il faut revenir en 1997 à la signature du protocole de Kyoto. L'Union européenne met en place des quotas carbone. Chaque entreprise dispose désormais d'un droit à polluer. Si elle ne s'en sert pas, elle peut le revendre. En France, la plateforme Bluenext gère l'offre et la demande. Mais ce système, mis en place à la hâte, est loin d'être parfait. Et des fraudeurs vont très vite créer de fausses sociétés et s'introduire sur le marché, comme l'explique Gilles Duteil, spécialiste de la délinquance financière.
Il suffisait de créer une société, même complètement fictive, c'est-à-dire juste l'immatriculer au registre du commerce en France pour pouvoir devenir acteur du marché. Donc ça a été la première faille. Ceux qui ont vu ensuite la deuxième subtilité qui a été de soumettre les transactions du marché à la TVA ont vu là une faille énorme et se sont précipités dedans.
L'arnaque était très simple à mettre en place. Les sociétés incriminées acheter des quotas carbone hors taxe dans un autre pays, mais les revendaient à Bluenext avec la TVA. Pour 100 euros achetés, ils recevaient donc 119,60 euros, sans reverser, bien sûr, la TVA à l'État et sans que Bluenext ne s'alerte.
Il a fallu attendre, 8-9 mois avant que la TVA soit supprimée sur le marché français. Et il y a eu une réaction immédiate qui montre l'ampleur de la fraude, c'est que les transactions du jour au lendemain ont baissé de plus de 80%. Sur Bluenext.
Les sociétés créées de toutes pièces ont en effet disparu dès que les transactions ont été exonérées de TVA. 8 ans après, seules 2 personnes ont pour l'instant été condamnées pour cette fraude.
Eva Joly, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'invitée des Matins de France Culture. Ces quotas carbone, c'était une fausse bonne idée du coup ?
Non, les quotas carbone, c'est très important pour pouvoir intégrer le prix du carbone dans la marchandise. Mais on voit encore une fois combien la justice est importante et la lutte contre la corruption et les fraudes de toutes sortes. Car sans cette lutte, il n'y a pas non plus de lutte pour l'environnement. Si on ne peut pas lutter contre l'abattage illicite des arbres parce qu'on peut blanchir les fonds par exemple, bon, on ne peut pas préserver les forêts. Si on ne peut pas lutter contre la pêche illégale, s'il n'y a pas de répression et d'appareils capables de détecter et de porter les affaires, bon, les règles resteront lettre morte. Donc, je trouve que ce lien-là est très important. Et tous les jours, on voit combien la justice est importante et combien elle souffre dans notre pays.
Merci beaucoup Eva Joly, on vous retrouve pour la suite de votre entretien avec Guillaume Herner dans les Matins de France Culture après ce journal à 8h15. Faut-il là aussi craindre l'arnaque du siècle ? En tout cas, la plus grande méfiance entoure aujourd'hui le TTIP, le traité de libre-échange transatlantique. Greenpeace va publier ce matin près de 250 pages confidentielles du projet d'accord entre l'Europe et les États-Unis. L'ONG entend confirmer les menaces qui pèsent sur la santé, l'environnement et le climat. Le traité, selon l'organisation, mettrait les intérêts des grandes entreprises au centre du processus de décision politique et législatif. Fini les objectifs de réduction des émissions de CO2 ou encore le principe de précaution qui nous protège aujourd'hui des OGM ou du gaz de schiste. Il fut une star de la police, Michel Néré, comparé à partir d'aujourd'hui pour corruption et trafic de stupéfiants. À la tête de l'anti-gang à Lyon pendant 20 ans, adulé par ses collègues, décoré par sa hiérarchie, il est aujourd'hui soupçonné d'avoir volé du cannabis dans des saisies pour rétribuer ses informateurs. Le procès d'une figure de la PJ donc, mais surtout d'un système où flics et voyous entretiennent parfois des relations dangereuses, Marie-Pierre Véraud.
C'est l'histoire d'une chute, celle d'un grand flic encensé par ses supérieurs et ses pairs. Dans le dossier d'instruction, les magistrats remarquent d'ailleurs ses notations particulièrement élogieuses, le caractère tout à fait exceptionnel de ses états de service, le prestige dont il jouit dans la région lyonnaise. Une légende donc, cueillie au petit matin le 29 septembre 2011, comme l'un de ces vulgaires malfrats qu'il a durant 30 ans de carrière contribué à faire tomber. Une arrestation, 8 mois de détention provisoire et puis donc aujourd'hui, ce procès notamment pour corruption, trafic de stupéfiants ou encore violation du secret professionnel. C'est le résultat de plusieurs mois d'écoute qui ont révélé les pratiques troubles du numéro 2 de la PJ lyonnaise. L'enquête a révélé qu'il a à plusieurs reprises consulté des fiches de police et fiches Interpol pour renseigner des voyous, mis le nez dans des enquêtes en cours, détourné de la drogue, de scellé pour rémunérer des informateurs. Michel Néré reconnaît des imprudences, mais réfute tout enrichissement personnel. Sa volonté, dit-il, c'est de neutraliser des malfaiteurs. Ses relations, c'est dans l'intérêt du service. Mais voilà, la police a aussi retrouvé des cadeaux, montres de prix, voyages, séjours luxueux à Marrakech, Cannes ou en Corse, près de voitures de luxe. Et puis il y a aussi les écoutes de l'épouse de Michel Néré qui supplie l'un des indiques. Mais arrêtez, arrêtez, il est obnubilé par le fric, le fric, le fric. Et puis, cette année 2011, au cours de laquelle il n'effectue quasiment aucun retrait et n'utilise guère sa carte bleue, sans oublier l'ouverture de comptes à l'étranger. Michel Néré aurait-il à un moment donné perdu la tête et franchi la ligne rouge? C'est tout l'enjeu du procès qui sera peut-être aussi celui d'une époque et de méthodes policières que le superflic aujourd'hui révoqué qualifie de pratiques certes particulières, mais anciennes dans le métier pour récompenser ses informateurs et obtenir des résultats.
Et le procès est prévu jusqu'au 24 mai au tribunal correctionnel de Paris. C'était la priorité du quinquennat Hollande, la refondation de l'école de la République. Aujourd'hui, pas moins de 3 ministres de l'Éducation nationale, l'actuel et ses 2 prédécesseurs, vont venir défendre ce qui a été fait depuis le début du mandat. Un point d'étape avec également François Hollande en fin de journée et Manuel Valls demain pour clore les débats. Les voix dissonantes se feront davantage entendre cet après-midi à l'extérieur du palais Brongniart où se déroulent les rencontres. Le syndicat SNES va manifester et continue donc de s'opposer à la réforme du collège, Célia Kiret.
Les manifestations contre la réforme du collège ne font pas le plein, mais certains enseignants sont irréductibles. Semia Wadbled a battu le pavé à chaque appel du SNES, son syndicat. Elle regrette que la ministre ait lancé la réforme du collège sans même tirer le bilan de la réforme du lycée de Luc Châtel.
Sur le lycée, les enseignants sur le terrain n'en sont pas contents, on ne les écoute pas. Et on est en train de nous appliquer la même chose au collège sans même nous écouter. On va continuer de se mobiliser jusqu'au bout.
Et dans ce rassemblement régional, cet après-midi, il y aura également quelques profs de lycée. Sébastien Bourdelot conteste la réforme de l'éducation prioritaire, notamment.
Dans mon département, il y a une dizaine de collèges et puis des centaines d'écoles qui sont sorties des réseaux d'éducation prioritaire. C'est beaucoup de moyens en moins, alors que c'est des écoles et des collèges qui avaient besoin de ces moyens-là. La ministre est en campagne électorale, visiblement, hein, mais sur le terrain, la situation ne s'est pas améliorée. Il faut qu'on soit écouté au plus haut niveau.
Au cours de ces journées, la ministre détaillera son bilan, notamment sur les créations de postes ou sur la formation des enseignants. Et demain, c'est Manuel Valls qui annoncera une mesure très attendue par les enseignants du primaire. Leur prime annuelle de suivi des élèves pourrait être alignée sur celle des enseignants du secondaire. Ils gagneraient ainsi 800 euros bruts de plus chaque année.
Autre rendez-vous fort pour l'exécutif cette semaine, l'arrivée de la loi travail demain à l'Assemblée nationale. Là aussi, il va falloir batailler. Hier, les manifestations du 1er mai ont toutes été marquées par la colère contre la réforme de Myriam El Khomri. Une mobilisation en baisse avec seulement 84 000 personnes dans les cortèges selon les autorités. Et des violences à Paris, 2 blessés et 18 interpellations. Bataille dans la rue, donc bataille législative aussi en perspective. Près de 5 000 amendements ont été déposés. Les députés semblent décidés à réécrire largement le texte. Le chemin s'annonce long et tortueux avant l'adoption du projet de loi. Laurent Kramer.
travailler 60 heures par semaine après signature d'un accord d'entreprise. Cette simple disposition de la loi El Khomri ne résisterait pas au droit européen. Bruxelles limite à 48 heures la durée légale du travail. Le rapporteur de la loi, Christophe Sirugue, a levé de nombreux lièvres juridiques et des oppositions de principe des députés. Pas question d'imposer aux employeurs une taxation des CDD ou d'autoriser des licenciements économiques en France à des multinationales qui engrangeraient des bénéfices à l'étranger. Deux points incontournables qu'il faudra abandonner pour faire voter cette loi travail, concluent les députés. Si la négociation d'accords d'entreprise doit rester la pierre angulaire de ce texte et permettre de nombreuses dérogations, pas question pour autant d'ouvrir la porte au dumping social et à de nombreux contentieux avec des accords d'entreprise qui risqueraient d'être déséquilibrés. Le rapporteur souhaite donc que les branches professionnelles gardent finalement un œil sur la sincérité et la validité des accords d'entreprise et limitent la portée des référendums.
Le nouveau patron d'Air France KLM s'appellera Jean-Marc Janaillac. Il a été choisi hier par le conseil d'administration de la compagnie pour succéder à Alexandre de Juniac en partance cet été. Jean-Marc Janaillac dirige actuellement Transdev, groupe international de transport en commun, filiale de Veolia et de la Caisse des dépôts. Un groupe qu'il a réussi à redresser ces dernières années.
8h10 sur France Culture, la suite du journal Amélie Perrier au Venezuela, pays en crise à cause de l'effondrement des cours du pétrole où le pouvoir décide d'augmenter le salaire minimum.
Ah oui, des mesures tous azimuts pour tenter d'apaiser la colère de la population privée de tout, d'électricité, de produits de consommation de base. Le pays a changé de fuseau horaire ce week-end pour économiser du courant. Les fonctionnaires ne travaillent plus que 2 jours par semaine. Une situation catastrophique, Claude Guibal.
Ils font la queue des heures chaque jour, les Vénézuéliens, pour acheter du riz, du café, de la farine. Des produits de première consommation que l'État vénézuélien parvient à peine à importer, tant les caisses de l'État sont vides. 180% d'inflation, la plus haute au monde. Une économie qui a totalement dévissé avec la chute du baril de pétrole. Le pétrole qui fournit au Venezuela 96% de ses devises. Depuis la semaine dernière, les Vénézuéliens doivent aussi faire avec le rationnement en électricité, coupé minimum 4 heures par jour. Toute l'économie fonctionne au ralenti, légal a été modifié, des jours fériés rajoutés, la semaine de travail réduite à 2 jours pour les fonctionnaires, tout ça pour économiser l'électricité. Une pénurie énergétique que l'État impute à la sécheresse qui affecte les barrages qui alimentent les centrales électriques. Mais pour l'opposition, tout est à mettre au contraire sur la mauvaise gestion du pays. Selon un sondage, 68% des Vénézuéliens réclament le départ du président Nicolas Maduro. L'opposition dit avoir réuni plus d'1 million de signatures pour réclamer sa destitution alors que des émeutes ont éclaté dans plusieurs provinces du pays.
Et l'opposition doit remettre aujourd'hui ou demain les signatures recueillies au Conseil national électoral pour organiser ce référendum contre le président Maduro. Un navire de croisière américain doit accoster aujourd'hui dans le port de la Havane à Cuba avec 700 touristes à son bord. C'est une première pour encourager les échanges culturels entre les deux pays en pleine réconciliation. Ces voyages profiteront d'abord à la diaspora cubaine, 2 millions de Cubains réfugiés aux États-Unis. Le régime castriste compte pour sa part sur le tourisme pour doper son économie. Le chef de la diplomatie américaine, lui, est attendu aujourd'hui à Genève pour les négociations de paix en Syrie. Objectif, rétablir le cessez-le-feu conclu en février, mais mis à mal depuis une semaine par l'offensive menée par l'armée de Bachar al-Assad pour reprendre Alep, la grande ville du nord du pays. L'Irak sous haute pression, les partisans du puissant guide chiite Moqtada al-Sadr ont occupé ce week-end la zone verte à Bagdad, cette enclave ultra sécurisée dans la capitale irakienne où sont installés le parlement et les bâtiments gouvernementaux. Une manière de mettre en garde les députés en plein processus de nomination du nouveau gouvernement censé lutter contre la corruption. Angélique Ferrat est à Bagdad pour France Culture.
Le Parlement a été occupé 6 heures samedi. Dimanche, des milliers de militants de Moqtada al-Sadr ont campé sur les pelouses de la zone verte, s'appropriant les lieux comme des enfants. Bref, le chef religieux chiite, Moqtada al-Sadr, montre de quoi il est capable. Rien n'a dérapé, l'encadrement du mouvement était partout et les consignes claires. Il faut ramasser les poubelles, pas de violence, pas de casse, un discours irakien. On est là pour les sunnites, les chiites et les kurdes, on est là pour l'Irak. Quand on demande à Awad al-Awadi, député sadriste de Babylone, la stratégie de Moqtada al-Sadr, il répond ceci.
Les sadristes sont aux côtés du peuple irakien pour obtenir ses droits. Notre stratégie dépend de la volonté des manifestants. Le public aujourd'hui ne veut plus de ce gouvernement où les postes sont distribués en fonction de chaque communauté. Le public ne veut plus de la corruption. Il veut un gouvernement honnête qui respecte les citoyens, un gouvernement de technocrates, de professionnels.
Les sadristes ont reçu un soutien de poids. Hier, l'ayatollah Ali Sistani, la plus haute autorité religieuse chiite du pays, a appelé tous les Irakiens à soutenir les demandes de réforme du mouvement. Les manifestants, eux, ont prévenu, si le Parlement ne vote pas un nouveau gouvernement rapidement, ils vont demander plus des élections anticipées.
Angélique Ferrat à Bagdad, en Irak. Le drame des migrants en Méditerranée. Une centaine de candidats à l'exil ont été portés disparus ce week-end dans deux naufrages distincts au large de la Libye. Ce sont les rescapés qui ont témoigné du drame. La majorité de ces migrants venaient apparemment d'Afrique de l'Ouest et avaient embarqué en Libye. Depuis le début de l'année, plus de 1200 étrangers ont perdu la vie en mer en tentant de rejoindre l'Europe. Terminons ce journal en Algérie où les luttes de pouvoir passent par le rachat de journaux. L'industriel Issad Rebrab, déjà propriétaire d'un quotidien national, a l'intention d'acquérir El Kabar, un important groupe de presse algérien critique à l'égard du pouvoir. Alors la justice s'en mêle et tente de freiner la transaction. L'audience a lieu aujourd'hui, Bruno Kaden.
Issad Rebrab est la première fortune du pays, fondateur du conglomérat Cevital, un géant de l'agroalimentaire qui s'est diversifié dans la grande distribution, l'électronique, l'industrie lourde, le BTP ou les services et qui emploie 13 000 personnes. Issad Rebrab a racheté le groupe de presse El Kabar qui comprend un quotidien, une chaîne de télévision, une société d'édition et une imprimerie. Un groupe connu pour sa liberté de ton vis-à-vis du pouvoir. Le gouvernement veut annuler ce rachat en se basant sur le code de l'information. Son article 25 précise qu'une même personne morale ne peut posséder, contrôler ou diriger qu'une seule publication périodique d'information générale en Algérie. Or, Issad Rebrab possède également le quotidien Liberté. C'est le ministère de la Communication qui a introduit cette affaire en justice. Pour sa défense, l'homme d'affaires explique que ce ne sont pas les mêmes sociétés qui dirigent Liberté et le groupe El Kabar et affirme que l'opération de rachat s'est faite dans la transparence via une filiale et que la direction du groupe n'a pas changé. Les dirigeants d'El Kabar dénoncent l'acharnement du gouvernement contre un groupe médiatique qui défend les libertés individuelles et collectives et la liberté d'expression. De son côté, Issad Rebrab reproche au pouvoir de faire obstacle à ses projets d'investissement en Algérie et à l'étranger.
Et le temps de ce lundi en France, une belle journée ensoleillée, sauf de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. Cet après-midi, le mercure remonte 15 degrés à Lorient, 16 degrés à Lille et à Clermont-Ferrand, 17 à Poitiers, 18 à Paris et à Strasbourg et 20 degrés pour Marseille, Guillaume Erner.